Jésus, l'envoyé du Père aux pauvres. Jean-Baptiste, dans sa prison, démoralisé par cette arrestation qu'il a retiré du grand mouvement d'attente qu'il a vécu avec une telle intensité, envoie ses disciples questionner Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Évangile de Matthieu 11, 3. Jésus répond clairement, mais prudemment, il tient compte du climat politique. Et tout comme les susceptibles, se dirait ouvertement le Messie annoncé serait suicidaire. Jésus va donc répondre par une parabole vivante. Il réalisera devant les envoyés de Jean-Baptiste la prophétie d'Isaïe sur le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles une vue claire, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. À ce moment-là, il guérit beaucoup de personnes affligées de maladies et d'infirmités et d'esprits malins, et il accorda de voir à plusieurs aveugles. Évangile de Luc 7, 21. Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. » Évangile de Luc 12, 22. Jean-Baptiste n'aurait aucune peine à conclure dans sa prison, « Qui est Jésus ?» Oui, il est l'envoyé, c'est lui qui doit venir. Il est ce Dieu qui nous visite les mains ouvertes. Pour se présenter, il ne trouve rien de mieux que d'énumérer les bienfaits qu'il opère. Sa définition, sa personnalité se résume en cet amour qui ne sait qu'inventer pour soulager les malades de leurs maux, les pauvres de leur tristesse. Aussi se donne-t-il comme source de lumière pour les aveugles, des forces pour les boiteux, de santé pour les lépreux, de vie pour les morts, de vérité et de consolation pour les pauvres. Jésus, l'envoyé du Père, se reconnaît à cette bonté envers les malades, à son attention à leur égard. Mais le point le plus extraordinaire de cette affirmation, c'est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Tous les hommes sont pauvres de la seule vraie richesse, Dieu. Mais il reste que les pauvres, les petits, les plus abandonnés, sont justement ceux qui réclament le plus cette bonne nouvelle, cette évangélisation. D'ailleurs, ils sont plus aptes que quiconque à saisir la grandeur de Dieu, eux que ne dupent pas les vernis des biens et du confort. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Témoignage rendu au précurseur par le Messie. Jésus admire Jean le Baptiste. Il aime ce caractère bien trempé qui ne se laisse pas aller à toutes les impressions comme un roseau agité par le vent. Il en fait le bel éloge de son rôle dans l'histoire du salut. Mais pourquoi êtes-vous sorti? Pour voir un prophète? Oui, je vous l'ai dit, est plus qu'un prophète. Évangile de Matthieu 11, 10. Et ce prophète, c'est celui qui l'annonce et ouvre avec vigueur le chemin du royaume. Il est lui-même ce violent dont doivent s'inspirer tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des dieux. Et ce n'est pas par hasard qu'il l'assimile à Élie. Élie possédait ce même esprit. Il a résisté à Achab, meurtrier de Naboth. Les nouvelles Élie, Jean le Baptiste a résisté à Hérode. Il en est mort, mais a pris de force le royaume des dieux. Il a ouvert une nouvelle voie, un nouveau chemin vers Dieu, fait de courage. Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour disposer ta voie devant toi. Évangile de Matthieu 11, 10. Aussi, la vision de l'histoire du salut raccourci en une phrase de génie, nous montre-t-elle la place extraordinaire de Jean le Baptiste à côté de Jésus, lui qui annonce l'attitude de courage et de lutte que devront adopter tous ceux qui suivront le Seigneur pour entrer dans son royaume avec l'esprit d'Élie. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun essaye d'y entrer des forces. Évangile de Luc 16, 16. Jésus est capable de ramasser les siècles dans une phrase minuscule et puissante comme un germe de vie. Semé par Dieu au début de l'humanité, ce germe pousse à travers les siècles, vivifié par la loi et les prophètes, pour aboutir à Jean le Baptiste et au royaume de Dieu que lui, Jésus, vient annoncer. C'est la bonne nouvelle dont Jean est le précurseur, le messager. La manière dont Jésus parle de Jean-Baptiste trahit son enthousiasme pour cet homme qui le premier force les portes du royaume. Il aime sa franchise et sa rudesse et va jusqu'à le comparer à Élie. Et si vous voulez l'entendre, lui-même est Élie qui doit venir. Évangile de Matthieu 11, 14. Devant l'attitude des pharisiens et des docteurs de la loi qui n'ont voulu accepter ni le message de Jean-Baptiste ni le sien, échappe ainsi à toute vraie conversion, Jésus avec ironie et humour les compare à des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Évangile de Luc 7, 31 à 32. Jésus se compromet avec les plus pauvres spirituellement. Les gens en place ont refusé la conversion, alors que le peuple et les publicains ont écouté la parole des gens et de Jésus et se sont convertis. Royaume et la volonté de Dieu. Qui sont mes frères? Marc nous décrit une scène étonnante. Jésus est rentré dans la maison de son ami Pierre à Capharnaüm. Ce ne sera guère du repos. Il sait bien qu'annoncer la bonne nouvelle est avant tout une affaire de contact. Et revenu à la maison, il ne s'abandonne pas au confort de son intérieur. La foule le relance aussitôt et il ne prend même pas le temps de manger. Évangile de Marc 3, 20. Il se néglige au point de paraître complètement fou aux yeux de sa parenté. Et le sien l'ayant appris sortir pour se saisir de lui, car on disait, il est hors de lui. Et sa mère et ses frères arrivent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent demander. Et la foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici dehors ta mère et le frère qui te cherchent. Évangile de Marc 3, 31 à 32. Et répondant, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et jetant un regard sur ceux qui étaient en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Évangile de Marc 3, 33 à 35. Nous sommes un peu choqués à première vue par l'affirmation de Jésus, qui est ma mère et qui sont mes frères. Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui qui est mon frère et ma sœur et ma mère. Évangile de Matthieu 12, 48 à 50. Nous sommes choqués à cause de la Vierge Marie, mais en fait, qui mieux qu'elle a su écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique? Luc, d'ailleurs, nous apporte une notation qui nous rappelle l'Annonciation. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Évangile de Luc 8, 21. N'est-ce pas ce qui s'est accompli à la lettre en Marie? Rappelons-nous les messages de l'ange. Or, Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Évangile de Luc 1, 38. Le royaume de Dieu est ainsi offert non pas simplement aux intimes du Seigneur, mais à tous ceux qui, avec courage, se contentent de faire la volonté de Dieu dans le quotidien. Jésus manifeste ici, comme toujours, une entière liberté d'esprit et d'action vis-à-vis de sa famille terrestre. Ce qui compte avant tout pour lui, c'est de se conduire en fils de Dieu, en se conformant à la volonté du Père. Oui, Dieu est un Père, mais seule la foi nous permet d'entrer dans le mystère de Jésus qui affirme être notre frère au cœur de notre mystère de la vie humaine. Parabole du semeur, bonne terre ou rocaille de nos cœurs. Pour nous parler de la parole qui tombe dans nos cœurs, Jésus a su trouver cette extraordinaire image du semeur qui lance sa semence. Là encore, il souligne bien notre entière liberté. Le terrain reçoit la semence, mais selon qu'il est pierraille, broussaille ou bonne terre, le germe croîtra en moisson ou bien sera étouffé. Le semeur sortit pour semer sa semence, et pendant qu'il semait, une partie tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre partie tomba sur les rochers. Élevée, elle se dépêcha, puisqu'elle n'avait pas d'humidité. Et une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Élevée, elle donna du fruit au centuple. Évangile de Luc 8, 5 à 8. Le semeur lance largement sa semence. C'est notre terre qui manque à la semence. Jésus nous fait remarquer que la semence est la parole de Dieu, Évangile de Luc 8, 11, et que ce sont nos cœurs qui la reçoivent dans une terre aride ou bien préparée. À nous de répondre à l'espérance de Dieu et de donner une abondante moisson. Explication par Jésus lui-même de la parabole du semeur. Jésus nous a expliqué lui-même la parabole du semeur. D'emblée, il nous engage à écouter soigneusement. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Évangile de Matthieu 13, 18. C'est l'un de ces nombreux impératifs de liberté qui nous renvoie à nous-mêmes. Ce ne sont pas tellement des ordres que des rappels. La vie spirituelle s'opère à travers nos propres choix, ici l'attention portée à la parole. La semence est la parole de Dieu, les semeurs sèment la parole. Évangile de Luc 8, 11, Évangile de Marc 4, 14. Cette parole nous vient de différentes manières. Les semeurs, c'est l'évangile que nous lisons nous-mêmes, c'est l'évangile que nous entendons un jour durant la messe. C'est un simple passage de l'Évangile cité par quelqu'un. Cette parole qui change nos mentalités et nous fait rentrer dans le règne de Dieu, un ennemi, le diable, Satan, l'esprit du mal. Jésus y croit. Il dénonce son vrai but, empêcher les hommes d'être sauvés. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Ensuite vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, pour empêcher qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Évangile de Luc 8, 12. C'est l'ennemi numéro un du règne de Dieu. Il est empressé à se jeter sur la semence divine et à l'arracher des cœurs. Jésus, par une série de verbes actifs, nous montre bien l'action du malin. Il nous en montre la violence et la soudaineté et nous laisse deviner sa hargne. Voici ce verbe. Et il arrive, Évangile de Matthieu, et il ravit, Évangile de Matthieu, et il arrache, Évangile de Luc, et il emporte, Évangile de Marc. Par ailleurs, le texte de Matthieu laisse entendre que la parole du règne demande réflexion, un temps de méditation, car encore une fois, quiconque entend la parole du règne et ne comprend pas, faute de se recueillir, le malin vient et ravit ce qui a été sémé dans son cœur. Évangile de Matthieu 13, 19. Et il est bon de noter que c'est dans le cœur que germe et grandit la parole. Dieu nous provoque au plus intime de nous-mêmes. Le deuxième obstacle que rencontre la parole, c'est notre légèreté. Jésus connaît très bien l'homme et tout ce qu'il y a en lui, et la difficulté de l'atteindre profondément. Car bien des hommes n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais sont instables. Évangile de Marc 4, 17. on reçoit avec joie la bonne parole, mais s'il arrive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, aussitôt on se scandalise. Évangile de Matthieu 13, 21. Jésus a dévoilé aussi les trois grands obstacles qui, dans chacune de nos vies, risquent d'étouffer la parole de Dieu. Les soucis, les délices de la richesse et les convoitises de tout genre qui pénètrent en nous, étouffant la parole qui ne peut faire du fruit. Évangile de Marc 4, 19. Le mystère du royaume doit être connu. Jésus a le don d'étirer ses images de la vie de chaque jour. Il sait choisir l'image suggestive pleine d'humour et d'ironie. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la cache pas avec un vase ou ne la place pas sous un lit, mais c'est sur un chandelier qu'il la place, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Évangile de Luc 8, 16. Vous avez la vérité et vous la cacheriez sous les boisseaux. Jésus veut au contraire que nous soyons des âmes des lumières, des âmes conquérantes qui répandent autour d'elles cette lumière du Christ. C'est pour cela qu'il a apporté le feu sur la terre. Jésus nous demande d'agir et d'agir au grand jour afin d'éclairer ceux qui nous entourent. Il aime les hommes d'action. Il nous faut rendre témoignage devant les autres et annoncer le royaume de Dieu. Les disciples ne doivent donc pas être craintifs ou intimides. S'ils se doivent être discrets, ils savent aussi agir et s'affirmer quand il en a besoin, se mettre en évidence. Jésus nous invite à ne plus enfouir nos talents, mais à les faire valoir pour que s'étende le règne de Dieu. Cette immense espérance du royaume de Dieu n'est pas pour être tenue cachée. Il faut la crier au monde, car ces ténèbres appellent la lumière. Nous portons l'espérance aux autres, rien qu'en étant transparents à la lumière. Jésus disait à ses apôtres, « Faites attention à ce que vous entendez. On vous servira selon votre mesure, et l'on vous donnera encore plus, car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a rien, même ce qu'il a, lui sera enlevé. » Évangile de Marc 4, 24 à 25. L'essence de ce passage est suivant. Les richesses du royaume sont les seules richesses valables. Il faut être fou pour les mépriser. Celui qui choisit le royaume de Dieu recevra la vie éternelle. Mais celui qui choisit les richesses terrestres, le plaisir, l'argent, les honneurs, le pouvoir, ne s'attache qu'à de la pacotille. Au jugement même ce qu'il a lui sera enlevé. Il ne tenait en main que du néant face aux richesses du royaume. Il est bien évident que si notre liberté ne s'arrête qu'au créé matériel, l'or et l'argent, la puissance, le plaisir, nous ne retiendrons rien dans nos mains, car dans le royaume des cieux cela ne représente rien, rien que du néant. Voyez donc comment vous écoutez. Évangile de Luc 8, 18. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il leur disait, faites attention à ce que vous entendez. Évangile de Marc 4, 24. La parabole du blé qui pousse tout seul. Et Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté la semence sur la terre et dormirait et se réveillerait de nuit et de jour. Or, la semence pousse et grandit sans qu'il sache lui-même comment. Car d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé plein d'épi. Or, quand les fruits s'y prêtent, aussitôt, il y met la faucille parce que la moisson est à point. Évangile de Marc 4, 26 à 29. Soyons donc optimistes vis-à-vis du royaume de Dieu. Le travail de Dieu dans un cœur, comme à travers le monde, nous échappe le plus souvent. Dieu est efficace et discret tout ensemble. Cette parabole nous offre deux clés. Ces deux clés nous ouvrent les perspectives du royaume et vis-à-vis de la vie intérieure de chacun d'entre nous et vis-à-vis de l'Église. Jésus voit les choses largement. Tout d'abord, son Église, le royaume, possède une telle vitalité qu'une fois semé, son germe se développera sans arrêt, sans intervention humaine. Son royaume a la force et la puissance des semences, force immense qui, une fois confiée à la terre, sans plus se préoccuper des hommes, monte irrésistiblement en épi. La vie intense de Dieu imprègne le royaume et sans cesse, malgré les obstacles, celui-ci va croître jusqu'à l'éternelle moisson. La parabole nous explique aussi un autre aspect du royaume. Il s'agit de la vie intérieure propre à chacun. Elle requiert le jeu de notre liberté, c'est évident. Mais justement, tout se passe entre Dieu et nous, dans les mystères, comme pour tout ce qui entoure l'amour, qu'il s'agisse de l'amour humain ou de l'amour divin. Cette vie n'est pas l'œuvre de l'homme. Il n'y peut rien. L'ordre de la grâce, la vie de Dieu, apportée par le Christ, se passe du concours humain et de ses plans. Cette vie reste la plus grande force de l'univers, celle que l'homme ne contrôle pas. C'est pourquoi cette parabole nous enseigne encore une chose. Nous ne pouvons porter aucun jugement valable sur la vie spirituelle de nos frères. Les domaines de la foi échappent à nos investigations. Même si momentanément la semence semble enfouie dans la terre, nous ne savons rien de la vie d'union entre Dieu et les autres. Ne les taxons pas trop vite d'athéisme, de superstition, d'indifférence. Mais sachons une chose, si Dieu a jeté sa semence dans le cœur de ceux que nous aimons, son amour les prévient mieux que nous ne saurions faire. Cette semence doit être semée, nous pouvons la faire accompagner de la prière, bien sûr, et laisser cette semence se développer au rythme de Dieu avec lenteur. Cette vie se propage et grandit toute seule, de par sa propre vitalité, dans un dialogue intérieur où Dieu est seul juge et père. Il y a parfois de longs hivers où la semence enfouie nous semble morte, mais Dieu veille et la force du royaume l'emporte toujours. Quelle force d'espérance Jésus nous donne. Les paraboles du royaume, les grains de sénévé ou la force de la parole. Rien n'est plus dynamique, plus vivant que la semence. Ainsi en est-il de cette parole de Jésus, la bonne nouvelle contenue dans l'Évangile. Jésus disait, « À quoi pourrions-nous comparer le règne des dieux ? Ou en quelle parabole le mettrons-nous ? C'est comme un grain de sénévé, qui lorsqu'il a été semé sur la terre, étant la plus petite de toutes les graines qui sont sur la terre, et lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que toutes les plantes potagères. Et il fait de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent s'abriter sous son ombre. » Évangile de Matthieu 4, 30 à 32. Ce qui frappe, c'est cette disproportion entre l'effet et la cause apparente. Cette semence, cette parole de Dieu, ce verbe de Dieu, nous apporte une vie nouvelle divine. Ce royaume aura donc la puissance du germe qui s'embrouille régulièrement, croît, soulève la terre et devient un arbre pour les oiseaux du ciel. En fait, c'est l'Église qui, partie de cette parole du Christ, s'étend sans cesse de par le monde et dont les rameaux offriront bientôt asile à tous les peuples de la terre. Il y a aussi, à côté de l'aspect royaume-église, l'aspect du royaume vie intérieure en chacun de nous. Cette graine minuscule semée en nous au baptême croît lentement mais sûrement. La terre est comme le jardin des dieux. Depuis le Christ, l'humanité est ensemencée par cette parole de vie, mais comme pour toute semence, il faut du temps pour que la visite de Dieu à chaque nation, à chaque homme, leur offre ainsi la possibilité de se transformer. Et pourtant, cette semence porte en elle-même sa force d'évolution surnaturelle. Peu à peu grandit en nous l'intimité avec le Seigneur Jésus, à mesure que nous sommes davantage capables de garder ses paroles et de les vivre. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, observe mes commandements. C'est l'homme qui, dans un geste libre, accueille et jette dans le jardin de son cœur le grain de sénévé, sémence du royaume. Notre liberté, ainsi orientée vers Dieu, voit ses forces décuplées par les forces vives du royaume. Le règne des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout ait fermenté. Évangile de Matthieu 13, 33. Le royaume Église un jour s'étendra à toute l'humanité, mais la parabole nous rappelle aussi que dans l'aspect royaume vie intérieure, ce sont toutes nos manières de penser, toutes nos attitudes, en un mot, notre mentalité qui sera transformée par le levain de la parole. La parole de Dieu, contenue dans l'Évangile, nous interpelle, nous remue, comme un levain. Pour Jésus, notre liberté, orientée vers le royaume, est une force tranquille, mais en même temps déchaînée comme le levain. Rien ne l'arrêtera. Et là aussi, Jésus note bien que c'est la femme qui a pris et caché le levain dans 3 mesures de froment. Et son acte libre qui permet au levain de la parole de Dieu de transformer son cœur et ses actions. Lorsque les apôtres demandent à Jésus pourquoi il parle en parabole, le texte de Luc et de Marc nous laisse sur notre faim. Il nous donne l'impression que Jésus parle en parabole pour que ses auditeurs ne comprennent pas. Mais en fait, le texte de Matthieu 13, 10 à 14, qui cite en entier le passage d'Isaïe, le prophète de l'Ancien Testament, souligne que c'est tout à fait librement que certains regardent sans voir, écoutent sans entendre. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi, et ils ont fait la sourde oreille, et ils ont à demi fermé les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, et ne pas entendre de leurs oreilles, et ne pas comprendre par le cœur, et ne pas se convertir. Et alors, je les aurais guéris.